grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Voici cette première émission sur les bohémiens. Il y a un mois, j'étais à Paris parce que j'avais deux choix pour ces émissions, pour interviewer les gens. C'était soit de rester tranquillement en studio et de faire mes petits interrogatoires par téléphone. Alors, il y en a certains qui se passeront comme ça, parce que je ne peux pas faire autrement. Mais j'ai essayé aussi de faire des interviews plus en direct, avec un micro enregistreur. Et donc, le mois dernier, j'étais à Paris, où j'ai fait 6-7 interviews. Et cette première émission est une interview de Jeanne Gamonnet. Jeanne Gamonnet est une des rares écrivains sinti qui a beaucoup écrit des scénarios ou adapté des scénarios pour la télévision, qui a également écrit des romans policiers, entre autres qui est paru chez Gallimard en 2000, qui s'appelle « Périphérique Blues ». Et Jeanne va nous raconter qui sont exactement les bohémiens, les roms, les sintés, les manouches. Mais écoutez plutôt. Eh bien, bonjour. Voici donc la première émission sur les Tziganes que je vous ai promis. Et aujourd'hui, je suis en face de Jeanne Gamonnet. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Alors Jeanne, si je t'ai demandé de participer à cette émission, c'est pour une raison très simple. C'est qu'il y a 2 ans et demi, nous nous sommes rencontrés, tu ne t'en souviens sûrement pas, à la maison de Jean Monnet, dans la vallée de Chevreuse, lors d'une rencontre des Roms européens. Et je t'ai vu et entendu nous raconter l'histoire des Tziganes. Alors, il y aura toujours ce problème au cours de ces émissions. Doit-on dire Rome? Doit-on dire Tziganes? Eh bien voilà, c'est la première question que je te pose.
Alors voilà, les Roms ou Tziganes ne sont pas tous d'accord. Parce que pendant longtemps, si vous saviez le nombre de noms qu'on a donné aux Tziganes, il y en aurait 2 pages. Quand ils sont arrivés en Europe, on les a appelés Tziganes parce que ça vient du grec Athinganoi. Ils les avaient confondus avec des réfugiés persans qui n'étaient pas musulmans, qui étaient manichéens, ils avaient d'autres préoccupations religieuses. Et Athinganoi, ça voulait dire qu'ils ne touchent pas. Ça ne veut pas dire que c'était des intouchables indiens. Ça veut dire que quand vous leur donniez quelque chose, ils étaient amuseurs, ils dressaient des animaux, ils disaient la bonne aventure, et ils faisaient un peu la manche. Et quand on leur donnait quelque chose, il ne fallait pas les toucher, il fallait poser ou de la nourriture ou un peu de sous par terre, et eux les reprenaient. Parce que dans leur religion, ils devaient toucher que d'autres gens de la même religion. Voilà, c'est un peu comme ça. Bon, les religions ont chacune leurs coutumes, quoi. Alors, quand les gens de l'Empire byzantin, au XIIIe, XIVe siècle, ont vu arriver des gens bien bronzés, qui dressaient des animaux, qui dansaient, faisaient la musique, lisaient les lignes de la main, tout ça, ils ont dit... « Oh bah tiens, voilà, en voilà d'autres, voilà encore des Athinganoi. » Et de là, le mot « Tzigane ». Alors après, quand ils sont arrivés en Europe, on les a appelés Égyptiens, parce qu'on croyait qu'ils venaient d'Égypte. En fait, il y avait une énorme concentration de gens qui s'étaient établis en Grèce, à côté du mont Gyp. Alors, comme eux, ils disaient, on est des Égyptiens, on les a appelés des Égyptiens. C'est de là, d'ailleurs, que vient le mot gypsy, gitan, alors que de Asingano vient le mot zigane. Et en fait, Rome, c'est un mot indien, parce qu'en fait, tout ce peuple, il est venu d'Inde. Et on les appelait les Romba, ou Rom. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit Rome. Mais après, il y a eu une foultitude de noms. On les a appelés bohémiens, pourquoi ? Parce qu'ils étaient reçus par les Européens plus ou moins bien. Plutôt moins bien que mieux, d'ailleurs. Mais il y a eu un souverain qui s'appelait... faut pas que j'oublie, je crois que c'est Stanislas. C'était un souverain d'Autriche-Hongrie qui leur avait donné des lettres de recommandation signées de sa main royale, disant qu'il ne fallait pas leur faire du mal, qu'il fallait les accueillir, leur donner du boulot, leur donner à manger. Et alors, comme ces lettres avaient été signées en Bohême, on les a appelés les Bohémiens. Et alors après, alors il y a eu tellement de noms. Mais en ce moment, à notre époque, les mots les plus répandus dans le monde, c'est Rome. Rome, c'est le nom qui a été choisi lors du premier congrès international Rome en 1971 à Londres, où ils se sont dit, pour avoir un certain poids, pour nous défendre, pour nous faire entendre, ben, il faut se réunir, il faut former une communauté. Sinon, s'il y a trois gars d'un côté et trois gars de l'autre, tout le monde, on pourra nous persécuter ou même nous ignorer. Et bon, et ils ont choisi le mot Rome. Mais ça plaît beaucoup aux Tziganes de l'Est, mais ça plaît pas à ceux de l'Ouest. Parce qu'en France, on dit surtout les Manouches. En Angleterre, ils disent, et dans tous les pays anglo-saxons, ils disent les Gypsies. En Espagne, où ils sont bien connus et appréciés, et au sud de la France, on dit les Gitans. Mais bon, alors ça fait toute une Macédoine de noms. Moi, depuis toujours, j'ai surtout entendu dire Tzigane. Bon, alors il y a eu la guerre, il y a eu cet horrible moment où ils ont été mis en camp de concentration. Ça a été vraiment une chose abominable. Et les Allemands les appelaient des Zigeuners. Alors évidemment, le mot Tzigane, ça rappelait le mot Zigeuner. Alors il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas dire ça. Bon! Alors, en Allemagne et en Italie, on dit les Sinti, comme mon papa. Il était originaire d'une communauté qui se baladait entre la Provence, le nord de l'Italie. On les appelait les Sinti piémontais ou provençalo-piémontais. Mais, en fait, en France, c'est le mot Tzigane qui est finalement le plus employé. Mais tu vois, c'est pas encore très très clair tout ça. Il y a beaucoup de noms.
Donc, en 1971, s'est créé de manière internationale le peuple rom. Ce peuple a officiellement un drapeau qui est constitué ainsi. En haut, une grande bande bleue qui représente le ciel. En bas, une grande bande verte qui représente la terre et au centre, une roue de roulotte rouge. Et l'hymne international Rome, c'est donc Djelem, Djelem.
Djelem, Djelem, ungomet romessa. Mala Djelem, shukare romesa. Djelem, Djelem, ungomet romesa. Mala Djelem, shukare romesa. Hai ho der valer
Bien sûr, cet hymne est chanté en langue romanie. Et j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que Jeanne, non seulement avait un papa Cinté, comme elle vous l'a dit, mais Cinto d'ailleurs, comme elle vous l'a dit, mais qu'elle était elle-même licenciée de sanskrit. Elle possède également une maîtrise de langue romanie et elle est en train de passer son doctorat de langue romanie. Je lui ai donc demandé tout naturellement ce que signifiait « djelem djelem » et elle m'a répondu « ça signifie « j'ai erré de l'errance » et que le premier vers de cette chanson dit « j'ai parcouru la longue route ». Mais voilà, retrouvons Jeanne. Et alors, tu disais qu'ils sont a priori originaires de l'Inde, mais comment se sont-ils répandus comme ça à travers le monde ?
Ah oui, ça c'est toute une histoire. Et c'est sûr qu'ils viennent de l'Inde. Tu veux savoir pourquoi ? C'est très simple. Parce que leur langue, le romani, c'est une langue indienne qui ressemble au hindi, la langue nationale officielle de l'Union indienne actuelle, et ils arrivent à se comprendre. Des gens qui parlent le romani et des gens qui parlent le hindi Ben, il y a pas mal. Tiens, on va s'amuser. Je vais te dire deux petites phrases très simples que j'ai déjà données en exemple. Très simple, hein. Ma sœur mange un bon poisson. Ah, rien de plus simple. Alors, en hindi, en Inde, on dirait Mera bhai ek lachi machli khadtie. T'as vu? Bon, t'as entendu
Oui.
plutôt. Alors, et en romani, on dirait Miri pen yek lacho macho khal. Ça ressemble, hein? Tous les mots ressemblent. Et en fait, c'est une langue qui vient d'Inde. Et là, alors là, je veux pas me faire mousser, mais je suis en train d'écrire une thèse sur la langue romani, et il y a 80% de mots qui sont des mots indiens. Alors évidemment, comme ils se sont répandus dans une quantité industrielle de pays, ils ont pris des mots, on dit toujours des voleurs de poules, mais ils volaient surtout des mots. Alors, tu trouves des mots, je vais te redonner un exemple. Par exemple, ça finit par être difficile pour se comprendre, parce que quelle heure est-il? Voilà encore une phrase très simple. Si tu es un Rome roumain, tu diras so de ora si. Ora. Tu dis ora, qui est le mot heure, qui est un mot d'origine latine. Bon. Si tu es yougoslave, enfin ex-yougoslave, tu dirais cosom tchasso. Si. Tchasso, ça vient du slave tchas. Les Russes, ils disent tchas. Tu vois? Et alors, les Bulgares, qui ont été longtemps dans l'Empire ottoman, ils emploient un mot turc qui dirait Kobol sahati. Et sahati, ça veut dire heure en turc. Rigolo, hein? Alors, ça veut dire qu'il y a des mots qui rentrent dans la langue et puis c'est pas qu'ils la déforment, mais ils l'enrichissent. Ils enlèvent des mots, ils en rajoutent d'autres. Et ça finit par faire des langues qui se ressemblent, qui sont des langues sœurs, mais qui ne sont pas tout à fait pareilles. Alors, tu parlais d'histoire. Ça, l'histoire, alors là, elle est absolument extraordinaire. Ils sont sortis d'Inde. Ils sont sortis d'Inde, ça, il n'y a pas de doute. Mais quand? Ah, voilà le problème. L'hypothèse la plus sérieuse que maintenant on admet, c'est quand il y a eu un grand sultan d'Afghanistan qui s'appelait Mahmoud de Ghazni et qui faisait des tas de raids, de pillages. Il prenait non seulement des richesses, des pierres précieuses, des éléphants, des pierres, même, il détruisait des temples pour aller refaire des temples en Afghanistan. Et ce type-là, il emmenait beaucoup d'Indiens en esclavage. Alors, il a emmené plus de 50 000 Indiens, mais d'une ville très belle qui s'appelait Kanauj, en Uttar Pradesh, dans le nord-est de l'Inde. Voilà. Mais il y a eu d'autres exodes. Et il y a eu plein d'Indiens qui sont passés. Parce que les armées de l'époque, ce n'étaient pas des armées simplement une seule nationalité. Il y avait des mercenaires, il y avait des esclaves militaires, il y avait des gens qui suivaient. Il y avait même des femmes pour faire la popote. Il y avait la grande spécialité des Indiens. D'ailleurs, ça va faire dresser les oreilles de nos auditeurs. C'était de faire des fers à cheval. Et ça, la métallurgie, ça a toujours été le grand art des Tziganes. Alors après, ils se sont battus terriblement, cette armée afghane, avec des Turcs. Des Turcs qui venaient d'Asie centrale. Et dans une grande, énorme bataille à Dandanakan en 1040, eh bien, les Turcs ont vraiment, ils ont écrabouillé, excuse-moi, je parle un peu argot, mais enfin, c'est pas grave, l'armée afghane. Et ils étaient beaucoup plus, ils étaient pas très nombreux, mais ils étaient très malins, très organisés, très efficaces, avec des petits chevaux très, très, très résistants. Et toc, l'armée afghane, brrr. Alors il y a même eu des soldats afghans qui trouvaient ces Turcs-là plus sympathiques, moins durs à cuire, et puis surtout ils avaient gagné la guerre, qui ont déserté et qui sont passés du côté turc. et tous les historiens de l'époque disent « et suivi en cela de leurs esclaves indiens ». Et voilà, tous nos Indiens qui en avaient un peu marre du sultan afghan, qui n'était pas drôle du tout, et qui ont préféré partir avec les Turcs, qui ont toujours été relativement humanistes d'ailleurs. Quand on parle à des Roms de l'Est, ils ont des souvenirs, pas bien sûr pas ceux qui ont 20 ans, mais ils ont des souvenirs de leur famille, de l'époque ottomane, où c'était des Turcs. Ils n'ont jamais tué, persécuté, mépriser les tziganes, non, c'était pour eux des serviteurs, des travailleurs, voilà. Ils étaient des gens corrects, quoi. Alors, il y a beaucoup de mots comme ça, parce que quand ils ont traversé, ils ont vécu avec des Turcs, ils ont traversé la Perse, ils ont traversé l'Arménie, ils ont traversé... Ensuite, c'était une longue marche vers l'ouest. Ils ont traversé l'Empire byzantin pour arriver en Europe. Ben évidemment, ils ont pris des mots. C'est pour ça que dans leur langue, je suis en train de faire donc une thèse là-dessus, tu trouves environ 80 mots persans, plus de 150 mots grecs, et même des mots arméniens, et même des mots du Caucase, parce que, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, mais les gens se baladaient beaucoup, les caravanes, tout ça, c'était extraordinaire. Tiens, un exemple. On dit toujours la route de la soie, qui venait de Chine pour aller jusqu'à Istanbul. Bon, à l'époque, on l'appelait Byzance, Constantinople. Eh bien, c'est pas vrai. Il n'y avait pas une route de la soie. Il y en avait plusieurs. Il y avait une route des épices, une route du diamant, une route de l'encens, une route de l'opium, une route de la céramique, une route de tas d'autres choses. Et il y avait des chameaux qui se baladaient partout. Donc, il y avait énormément de mouvements de population. C'était souvent pas des migrations, mais des affaires commerciales. Ils venaient vendre des choses, ils apportaient des choses, ils achetaient, etc. Par exemple, il y a un mot, il y a deux mots. Ça va amuser les gens. Le mot cheval, qui est important pour nous, je dis nous parce que mon père, c'était un tzigane. Le mot cheval, c'est sacré, quoi. C'est un totem. Aussi bien les juifs pieux, les musulmans pieux, ils ne mangent pas de cochon. Et les hindous pieux, ils ne mangent pas de vache. Eh bien, un tzigane qui tient à ses coutumes, jamais il mangera du cheval. Ah non, le cheval, ça c'est l'animal magnifique, quoi. Eh bien, ils ont abandonné le mot indien, ça se disait gora, pour prendre le mot grast, qui est un mot arménien. C'est drôle, hein? Et alors, il y a des mots qui sont marrants. Une fleur, ça se dit en langue indienne « pushpa » ou « pushp ». Après, quand ils ont vécu avec les Turcs, ils les ont appelés « tchitchek », qui est un mot turc. Mais quand ils sont arrivés chez les Grecs byzantins, comme le commerce des fleurs, les femmes faisaient des très beaux... Tziganes faisaient des très beaux bouquets de fleurs. Et en grec, une fleur, ça se dit louloudi. Et ben maintenant, on dit louloudi partout. Même à Montreuil, même au Brésil, même partout, tu vois. Donc, les mots, ça se balade avec les gens. Les gens, ils se baladent et les mots, ils se baladent avec. Alors après, je ne vais pas vous raconter tout leur éparpillement dans l'Europe, parce qu'on sera encore là à minuit. Mais il y en a partout. Hein. Vous avez des tziganes en Finlande, il y en a en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, il y en a bientôt. Il y en a même qui ont émigré ou qui ont été amenés au Brésil, il y en a plein. Et je finirai, parce que je suis une grosse bavarde, par vous raconter qu'il y a eu un président de la République du Brésil, Juscelino Kubitschek. Kubitschek, ça fait pas très très portugais, hein. Ben, c'était un caldeirache. We'll be right back.
Mais quand même, bon, je comprends bien que tu veux pas nous raconter toute l'histoire de toute l'immigration. Restons donc français. Comment sont-ils arrivés en France ?
Ben, on a des premières indications de leur arrivée en France au XVe siècle. Par exemple, à Sisteron, la famille de mon père elle était de ce côté-là, on a retrouvé des... Parce qu'eux, ils n'y écrivaient pas à l'époque. La première fois qu'on a retrouvé un texte écrit par un Rome, c'était... ou un Zigane, c'était en Allemagne, à Leipzig, en 1755, tu te rends compte. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils écrivaient ? Ben, y avait les historiens, il y avait les curés, les moines, les percepteurs, ils sont toujours là à l'affût. Les militaires, les municipalités, puis des curieux aussi. Parce que ces gens n'avaient pas que des ennemis, il y avait des gens qui aimaient bien leur parler, puis discuter un petit peu. Et on a retrouvé à la municipalité de Sisteron, donc, en 1400 et des patates, un secrétaire de mairie, quoi, un employé de Sisteron qui avait écrit, et on a retrouvé exactement l'original de son livre, « Bailler quelques sous », je ne me souviens plus du nombre, enfin tant pis, « à ces Égyptiens et ces Indiens, ils se souvenaient quand même qu'ils venaient d'Inde, pour leur faire quitter le village ». Et puis alors, on a des signes aussi en Alsace, à Colmar, on a des signes. Et après, on en a aussi en Belgique et aux Pays-Bas, par exemple, à Bruges et à Deventer, on en a trouvé aussi. Et en France, alors, ils se sont établis, il y en a qui se sont établis plutôt vers le nord, plutôt vers la frontière belge ou l'Alsace ou l'Auvergne, qu'on a appelé des cintés, des manouches. Et alors, ceux du côté de mon père, on les appelait des cintés provençalo-piémontais, parce qu'ils venaient du nord de l'Italie, tu vois, le Piémont. D'ailleurs, le vrai nom de mon père, c'était Lombard, parce qu'il venait de Lombardie. Et voilà. Et alors, ils se sont répandus, et il y en a qui sont passés jusque dans le sud de la France. Et ça a été les Gitans. Voilà. Et les Gitans, il y en a beaucoup en Espagne. Il y en a beaucoup qui se sont établis en Andalousie. Il y en a beaucoup en Catalogne. Et il y en a beaucoup dans le sud de la France. Perpignan, il y a un énorme quartier gitan.
Eh bien, on va encore interrompre Jeanne. Et on va s'écouter une petite musique qui s'appelle « Bossa Dorado ». Et c'est Jean-Philippe Leclerc qui l'interprète. Thank you. Et alors, tu disais tout à l'heure que tu faisais une thèse de Romanie, hein, c'est
oui,
comme
oui,
ça qu'on
oui.
dit. Mais est-ce que cette langue est parlée couramment par nos manouches, nos gitans, enfin, je ne sais plus comment il faut dire, moi, mais enfin, il y en a même qui disent les gens du voyage, qui, enfin,
ouais, c'est... Ça, c'est les administrations qui disent ça, c'est ridicule, parce qu'il n'y a plus beaucoup de voyageurs maintenant, il y en a encore quelques-uns. Tu me parlais tout à l'heure de Milo, notre pote Milo, il fait partie des voyageurs, mais il y en a encore pas mal en France, il y en a aussi en Angleterre, mais la plupart du temps ils sont sédentarisés, hein. Les oncles de mon père, il y en avait un qui était quincailler, c'est pas tellement nomade ça, et il y en avait un autre qui tenait un buffet de gare en Ardèche, et il y en avait un autre qui était travailleur agricole. Bon, il y en a qui font de tout, hein. Il y en a même qui sont médecins, ingénieurs, ceux-là on les voit pas, mais les Français, ils ont la sale habitude de les prendre tous. Oh là là, les stéréotypes, ça fait mal. Hein.
Ben, c'est une des raisons de cette émission, c'est-à-dire que moi, je te le disais tout à l'heure hors antenne, c'est un... Enfin, je vais dire un problème, mais c'est pas un problème. Mais enfin, c'est un état de fait que je découvre depuis 2 ans et demi, et que, effectivement, comme pour beaucoup d'ethnies ou de races, on associe comme ça un défaut à l'ensemble des gens qui en font partie. Et les Romanichels, c'est des voleurs d'enfants, des voleurs de poules.
Voilà, exactement. Comme on dit que les Juifs, ils pensent qu'à l'argent, comme on dit que les Noirs, c'est des obsédés sexuels, que les Chinois, ils sont tous hypocrites, que
oui,
les musulmans,
enfin,
c'est
voilà.
tous des terroristes et tout. Oh là 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 là, c'est...
Donc, je renouvelle ma question quand même, parce que tu n'y as pas répondu du tout. Est-ce que cette langue, elle est encore parlée par, nos manouches, nos gitans, nos sintés, nos gens du voyage? Est-ce que le romani est encore une langue parlée?
Alors, question difficile, réponse qui ne va pas être très claire. Parce que, à l'Est, cette langue est restée très vivace. Surtout Bulgarie, Russie, tout ça. En Roumanie, comme ils ont été esclaves. Oui, oui, esclaves avec des fers aux pieds, on vendait les gosses. Les jeunes filles, je ne te dis pas leur destin, vaut mieux, passons. Ils ont été esclaves 500 ans. Alors évidemment, leur langue s'est abîmée et a été beaucoup... colonisé par la langue roumaine. Mais il y a beaucoup de gens de l'Est que moi je comprends très bien. Quand j'étais interprète à Médecins du Monde, je me parlais très très bien avec les Bulgares et les Yougoslaves et les Hongrois et tous les gens de l'Est, quoi. Les Albanais, très très bien. Mais plus tu vas vers l'Ouest et plus les mots du terroir remplacent les mots. Et puis, il y a aussi une espèce de question de secret. On n'aime pas trop parler le romani devant les gadgets. Alors, quand on demande à un rom s'il parle, à Zigane, est-ce qu'il parle le romani, peut-être bien qu'il dira, il le dira pas. Parce que c'est une façon de se protéger. Voilà. Alors, quant à savoir, d'abord, qui est Zigane et qui ne l'est pas, y a ceux qui ont un papa Zigane, une maman Zigane, ils sont Zigane. Bon, est-ce que je suis Zigane, moi? Ma maman, elle était des bords de Loire, elle était blonde. C'est pas parce que mon papa, c'était un Sinto, c'est-à-dire un Zigane italien. Est-ce que je suis Zigane? Oui, mon cœur est Zigane, mais est-ce que je suis Zigane? Hein? Est-ce que, bon, il y a des gens qui se méfient. Papa disait, nous disait, quand vous aurez un boulot, dites pas que vous êtes Zigane. Parce que s'il y a quelque chose qui ne colle pas dans l'entreprise, on dira « Ouais, c'est les filles du gitan, évidemment, elles font des conneries. Hein » il faut se protéger. On dit ce qu'on est vraiment à des gens sympathiques, à des gens qui vous comprennent, à des gens qui ne sont pas racistes. Parce que le racisme, regarde ce qui se passe en Hongrie en ce moment, c'est vraiment... ça donne la chair de poule. Hein.
J'aimerais bien que tu en dises 3 mots, si tu veux bien.
De la Hongrie, oh là
oui.
là. Ben, j'étais avec trois copines il y a un an et demi à Budapest. Alors Budapest, c'est une ville étrange parce qu'évidemment le centre de Budapest, le centre historique, il est superbe. Il est même très mélangé, c'est rigolo. Il y a des bâtiments médiévaux, chrétiens, des mosquées, du style 1900 comme certains métros parisiens anciens. C'est très, très charmant. Mais alors, je ne te dis pas, les bidonvilles et les quartiers de la banlieue qui sont habités par les tziganes, c'est terrifiant. Il y a des gosses pieds nus, des trous énorme où tu pourrais mettre une marmite en pleine chaussée, qui sont dans une pauvreté. Et il y a un parti politique que je trouve abominable, qui s'appelle le parti Jobbik, qui a une espèce de milice qui a décidé d'exterminer tout ça, de chasser toute cette pourriture tzigane. Ouais, bonjour. Et on devait aller à une espèce de colloque avec des représentants du gouvernement hongrois, toute une série de tziganes. J'avais une copine qui venait du Pays de Galles en Angleterre. Il y avait Esmeralda, notre grande amie arlésienne. Il y avait aussi une autre copine de la banlieue parisienne. Il y avait moi. Et puis on arrive à cet endroit-là. Il devait y avoir ce colloque dans un parc. C'était beau, c'était au milieu de la ville. C'était joli. Et tout d'un coup, on voit une troupe de tziganes qui sortent du bâtiment en disant, en romani, en disant, tirez-vous les filles, il faut vous en aller. Il y a des skinheads qui arrivent avec des barres de fer pour nous chasser, pour nous taper. Oh ! Alors, on a fait ni une ni deux. On a trouvé une autre petite porte du parc. On a contourné le bâtiment, on a vu un tramway, on ne savait même pas où il allait, oups, on est remonté dedans, parce qu'on voulait s'en aller. Mais même en Italie du Nord, pourtant les Italiens, c'est une belle culture. En Italie du Nord, c'est pas comme l'Italie du Sud, hein. Ils sont, oh là 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 là, ils flanquent des cocktails Molotov dans les campements tziganes. Je dis pas quand, faut pas dire quand, parce que ça rappelle les camps de concentration. On dit terrain, on peut dire campement. Comme du camping, quoi. Il y a surtout des bidonvilles. Ah, c'est vraiment triste. Hein. Quand j'ai commencé à Médecins du Monde, à être interprète à Médecins du Monde, et que j'ai vu l'état dans lequel étaient toutes ces baraques, avec des rats partout. Au début, j'avais un petit peu peur des rats. Et puis, au bout d'une semaine, je leur donnais un petit coup de pied, pas méchant, mais je leur disais, allez, va jouer ailleurs, toi. We'll be right back.
bien, voilà, cette émission va se terminer. Nous retrouverons Jeanne Gamonnet la semaine prochaine parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Et vous avez peut-être remarqué, elle le dit elle-même, donc j'ai aucune honte à le dire, elle est très bavarde. Ah, je voudrais aussi vous préciser que si ces interviews sont interrompues donc par des morceaux de musique et puis bientôt par des proverbes, des poèmes, des contes, contrairement à certains journalistes, et n'étant pas journaliste, je ne coupe jamais les propos de mes interlocuteurs, à moins évidemment qu'ils ne respectent pas la loi et qu'ils fassent des appels au racisme ou des choses inacceptables. Donc je dis ça, c'est pour vous les auditeurs, c'est-à-dire que je ne trie pas les propos de mes interlocuteurs, pour vous les auditeurs, mais aussi pour les prochains interlocuteurs que j'aurai, que ce soit au téléphone ou en interview directe. Quand je leur donne la parole, ils disent tout ce qu'ils ont à dire. Voilà, c'est donc terminé. Je vous signale quand même que nous avons entendu Djelem Djelem. Alors, je ne sais pas par qui il était interprété. Si quelqu'un peut me renseigner, je suis preneur. Mais nous avons entendu aussi Jean-Philippe Leclerc. Barelli Lagraine, rien que ça. Et puis, un extrait de la bande originale du film de Tony Gatliffe, L'Atchodrome. Voilà, je vous dis au revoir. Je dis un grand merci à Stéphane qui toutouillait les boutons derrière la vitre. Et à vous, je vous dis à la manière manouche, L'Atchodrome. Thank you.